Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 6 septembre 2008 et il est pluvieux. Il est midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère, ça vit dans vos oreilles avec pour commencer.
Maintenant,
le supplément week-end avec l'actu politique, ciné, DVD, TV et livres.
Oh, suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des Paralympiques de la Ligue 1 de football.
Et ensuite,
eh ben c'est du reggae avec Zarma Farai qui vous sera présenté avec Poupa Christopher. Et à 17h, FMR, cette antenne pour nos amis de Booster FM sur 89.1 MHz. Bonjour et bienvenue. Ça va Thomas?
Ah oui, très bien, et toi?
Magnifique, j'ai pas arrosé le jardin.
Ah ben oui, ça fait plaisir.
J'ai un son à vous faire écouter, ça a été enregistré lundi dernier à Minnesota. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette semaine à Minnesota aux États-Unis? C'était tout simplement là la convention républicaine où la frite McCain a dit oui, je suis candidat et je suis encore vert. L'ennui, c'est que c'est une ville à majorité démocrate. Et ils ont fait une fête musicale pour contrer donc cet événement. La police a interdit à Sono. Qu'a fait Ragashagas The Machine? Ils ont pris un mégaphone qui passait par là. Absolument énorme, un documentaire sonore que l'on a récupéré sur le site Above the Fold, qui est organisateur donc de cet événement. Il faut savoir que les Républicains, en 2004, ils ont organisé leur convention d'investiture en 2004 à New York, une ville qui vote à 60% démocrate, et il y a eu énormément d'émeutes, je ne sais pas si vous vous en souvenez. c'est une manipulation comme une autre. C'est manière de dire, regardez, tous ces gauchistes, tous ces anti-guerres, tous ces anti-Bush, c'est que des fouteurs de merde, ils veulent guère mieux que les terroristes. Alors là, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben, on va le faire à Minnesota parce que ça vote à 75% démocrate. Donc ça va exploser. Qu'a fait la mairie de Minneapolis? Elle n'a pas refusé l'organisation de ce truc. Elle a dit qu'il y aurait des petits trucs à côté. Mais surtout, ils ont fait une campagne publicitaire qui est à pleurer de rire. La campagne publicitaire, c'est « Make an effort, be friendly and straight. Republicans are coming. » Je traduis « Faites un effort, soyez sympa et hétéro, les républicains arrivent. » Donc, c'est des campagnes d'affichage avec des gens que l'on voit qui sont en train d'allonger à la peinture les places de stationnement pour que ça rentre dans le gabarit des limousines. Plein de trucs comme ça, ou encore tu as un bar avec des gros culs, etc., les mecs avec leur bière, et ils réservent une place avec un petit cocktail et tout. C'est pour se foutre de la gueule des républicains. C'est très bien conçu. Et là, ben, il y avait donc cet événement, un concert de protestation plutôt sympathique, et la police a dit non. Et ben, puisque c'est comme ça, et ben, ils ont chanté comme ça au mégaphone, et les organisateurs ont foutu la vidéo et les sonores. On a les sonores en excellente qualité, puisque la preuve, on les a diffusés. Quand même, de ce concert absolument impromptu, ils ont fait deux morceaux comme ça. Moi, je trouve que quand même, c'était sympa, osé et rigolo. On commence les news avec la sortie de l'industrie du bande dessinée, c'est le cas de le dire, de CIBD. CIBD est un éditeur qui était spécialisé dans les manhwas, c'est-à-dire les bandes dessinées sud-coréennes, et qui éditait sous différents labels, les labels Akiko, Kabuko, Tokebi et Safira. Créé et dirigé par Christophe Lemaire, cette activité a été un temps épaulé par moi, Boudjela, le patron des éditions Soleil, financièrement, qui s'est retiré. Ils se sont dégagés en mai 2007, et finalement, il a peut-être eu le nez creux, parce que un an après, CBD a déposé le bilan, et ils ont été mis en liquidation judiciaire. Il y a une autre boîte qui a déposé son bilan tout récemment, c'est les Humanoïdes Associés. C'est clair, on sait qu'on est en pleine surproduction de bandes dessinées, 4000 nouveaux albums par an, ce qui fait que le tirage moyen pour un nouvel album est passé de 5000 exemplaires à 500 pour un jeune auteur, ce qui pose énormément de problèmes parce qu'il n'y a pas de quoi fournir toutes les librairies spécialisées bandes dessinées ou toutes les grandes librairies de France et de Navarre. Ça devient tellement orgiesque que tout simplement, ben, il y a de la casse. On le savait, on le sentait venir, on l'a déjà vécu en 92, ça a été très dur, ça a été très violent. Et ben là, la crise de la surproduction à bande dessinée arrive. Peut-être qu'il y aura un sursaut des éditeurs qui vont se dire « Ok, on est crème de suite », ou peut-être qu'ils vont laisser pourrir la situation et ça va être 4 à 5 années de production maigre. Et là, ben, ça va faire beaucoup de dégâts. Sachant que on disait déjà que l'industrie à bande dessinée était en crise à cause du piratage, à cause de ci, à cause de ça. Bon, le piratage en bande dessinée, je me demande si ça influe vraiment là-dessus. Je crois que la surproduction, c'est quand même le pire. De cela, Scott McCloud vient de sortir sa nouvelle bande dessinée. Scott McCloud, si vous ne le connaissez pas, c'est un théoricien de la bande dessinée, mais c'est le seul à le faire en bande dessinée de manière très didactique. Qui plus est, c'est un américain qui a à la fois une culture comics, européenne et manga. Bref, il a une vraie vision globale du 9e art. L'art invisible était un manuel passionnant sur la lecture à bande dessinée. Réinventer la bande dessinée donnait vraiment des idées géniales sur ce que doit être le design, ce que doit être une interface, sur ce que comment guider le regard et tout ça. Ça donnait même des idées pour construire un site web. Oui. Faire de la bande dessinée donne vraiment envie de se lancer comme scénariste et ou dessinateur. Eh bien, figurez-vous que c'est à lui que Google, le plus gros moteur de recherche, a demandé de présenter en bande dessinée les dessous de leur navigateur Google Chrome. Il a interviewé l'équipe de la création de ce moteur de ce site, de ce navigateur. C'est un navigateur web qui est basé à la fois sur le moteur Gecko qui est celui de Firefox et le moteur WebKit qui est celui de Safari. Bref, inutile de vous dire, c'est un soft qui est plutôt bien foutu et bien monté. Et Scott McCloud a les a interviewés, leur a demandé de présenter en bande dessinée dessous leur concept, ce qu'ils imaginaient, etc. Et ensuite, il a mis ça en image. Et Google a mis en ligne les 48 planches en question. C'est en anglais, mais ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est bien foutu. Il faut savoir aussi autre chose, c'est que demain, on fête les 10 ans de Google. Déjà. 10 ans d'hégémonie où ils ont viré Yahoo de la première place. Et où Microsoft, le patron de Microsoft, Steve Ballmer, lance autant qu'il peut de chaises, il n'arrive pas à les faire détrôner, ça ne marche pas. Il y a aussi Stephen Fry, je ne sais pas si vous le connaissez, Stephen Fry, c'est un humoriste anglais, présentateur d'un jeu, c'est le seul jeu encyclopédique que je connaisse, pour lequel tous les pubs anglais montent le son, parce qu'il est à hurler de rire, et qu'il est absolument génial, et qu'on apprend beaucoup de choses, ça s'appelle QI, Quite Interesting, qui est l'une des meilleures audiences de BBC Two. Quand c'est pas eux, c'est l'autre émission qui fait la meilleure audience, c'est Top Gear. Donc, bah oui, forcément. Et Stephen Fry est un gros fan des ordinateurs Macintosh. Il a été le premier à avoir acheté un Macintosh en Angleterre. C'est un vrai geek, c'est-à-dire il a une collection de plein de gizmos. Merde. Sur son blog, il montre les gizmos. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il le fait avec humour. C'est-à-dire avec sa vision de lettré, sa vision, je veux dire, pragmatique, ça a pleuré derrière. Et là, pour les 25 ans du logiciel libre de la fondation GNU, il a dit, ben, Apple, ils sont gentils, mais ils verrouillent un peu trop. Maintenant, je passe sous Linux. Et il l'a fait dans une vidéo qui est sous-titrée, qui est disponible, qui est très didactique. Il explique très bien la philosophie, pourquoi ça a été créé, quelle est l'idée directrice derrière, et pourquoi, en fait, Microsoft et Apple tentent de verrouiller les utilisateurs, et pourquoi les logiciels comme Linux, BSD et les softs de GNU... justement, ne veulent pas verrouiller les gens, mais au contraire, leur apprendre à enrichir un peu le système. C'est très intéressant, c'est bien foutu. Moi, je trouve que ça fait vraiment plaisir d'être aussi didactique. En plus, il a fait ça juste pour le fun. Et ça se voit d'ailleurs dans la vidéo. Le sous-titrage est d'ailleurs plutôt de bonne qualité. Et c'est vraiment fun. Donc, Stephen Fry, qui soutient Linux dans une vidéo assez longue. On en parle sur le blog de l'émission. Ah oui! Est-ce que vous savez ce qui se passe ce week-end en ville?
Il pleut. Il y a un match de fou. Non.
Non, c'est pas le rugby non plus. Le rugby, oui. Non, mais du sport, on va en parler. Du stade toulousain versus Biarritz. Mais non, il paraît que ce week-end, il y a la Festa Europa.
La Festa Europa, avec Cali en concert. C'est gratos.
Ouais, alors, comment dire?
Mais il y a également la fête à Arnaud Bernard ce soir. Hein.
Oui, c'est vrai, j'ai le papier sous les yeux. Alors, je vais d'abord expliquer un petit peu à nos amis auditeurs.
L'européenne.
Voilà, je vais expliquer un peu.
Et il y a également un truc au 7
deniers. Je peux terminer ma phrase avant. Après, on fait le.
Ah ouais, c'est quoi le truc au 7 deniers?
Ta gueule.
Il y a Magic dans le concert.
Donc, tout ça pour expliquer que Toulouse s'est toujours vanté d'être une capitale culturelle, mais de très haut niveau. C'est pour ça qu'ils ont toujours refusé d'avoir un festival BD, etc. Et puis ça a commencé à bouger, faut dire qu'ils avaient foutu à la porte Royale de Luxe et tout ça. Et tout d'un coup ils se sont réveillés en disant « Ah oui, mais en 2013 on pourrait faire là, comme ils ont fait à Lille là, quand ils ont été capitale européenne, là, on pourrait montrer que nous aussi chez nous la culture ça bouge. » Ça nous fait un petit peu rire, même si la majorité, même si la mairie a changé de bord après 30 ans, je veux dire. Ça fait rire parce que c'est absolument pitoyable, c'est vraiment une affaire de gros sous. À côté, Bordeaux le fait avec beaucoup plus de finesse et d'intelligence. Lyon aussi. Je ne vais pas dire que Toulouse n'a aucune chance, mais je vais plutôt être défaitiste et dire que pour leur grande fête aujourd'hui, j'ai l'impression que ça tombe à l'eau. Donc voilà, voilà, c'est le ciel est gris couleur télévision et je peux vous dire qu'on est trempe. Voilà, bah oui, c'est la rentrée. Voilà, hein, c'est la reprise. Donc oui, il y a un événement à Arnaud Bernard. Ce soir, avec en concert gratuit Uncle Struggle, Sonic Boom 6, Crazy Bobo Congo, The Lost Communists, The Rodents, Clan d'Instinct, c'est à Place Arnaud Bernard, et de 15h à 18h30 en plein air au jardin d'Ambart. Alors faut le trouver le jardin d'Ambart, hein. c'est au milieu d'un pâté de maison. Et c'est très très beau, c'est vraiment sympa. Bah, c'est juste derrière.
Ouais, bah, c'est quand tu prends la rue des Quêteurs et puis tu reprends à droite pour aller direction le boulevard.
Voilà, exactement. Et juste derrière là, il faut le trouver. Ouais, c'est ouais, pas très loin de la cité administrative, hein, quand même. Et donc, il y a des ateliers radiophoniques, des jeux et animations, il y a une initiation à la botanique et un goûter offert pour les enfants. Allez-y avec vos gosses. Pour les ados, on va en parler de suite. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu avais d'autre à annoncer, Luce ?
Ah non, mais j'ai lu un truc aussi. Il y avait la cité de Madrid, hein, qui est située 7 deniers. Il y avait également un concert ce soir avec, entre autres, Majid, mais Majid en solo, hein, c'est-à-dire pas avec les Zebda. Je sais pas dans quel cadre, j'ai pas pris le truc, hein, de toute façon.
De toute façon, on devine, hein, c'est pour cet événement. Allez, maintenant que la mairie est à gauche, faut maintenant qu'on y croit. Allez, Toulouse, capitale.
C'est peut-être
culture.
Également dans le cas de Festa, de Festa, c'est-à-dire le gros truc.
C'est pas hein, peut-être, c'est à coup sûr. Mais bon, on veut bien y croire. Allez, zou. Midi 15 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end. Et on entame enfin, sur FMR, les sorties bande dessinée. Et pour info, Thomas, oui, c'est l'émission numéro 170. J'ai vérifié. Vanida, celle que je ne suis pas. Le premier tome vient de sortir chez Dargo. Après un passage à la boîte à bulles. Et un autre. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de l'éditeur. C'est. Comment dire, il y a des libraires qui m'ont dit « Oh non, ces histoires d'ados, c'est chiant. » Bon, c'est vrai. Rien n'est plus exaspérant qu'un adolescent. Sous prétexte que ça fait le homard, je parle du crustacé, ça s'ennuie à rien foutre et ça n'arrête pas de se plaindre de son nombril. Ce qui est rigolo, quand ça mute la voix, « Oui, non, mais vous pouvez pas me comprendre. » Mais finalement, c'est aussi lassant un ado que les modes qu'il adopte uniquement parce qu'il a vu la pub à la télévision. Ben oui, soit ça crache son mal-être de ne pas habiter à Beverly Hills en écoutant de l'émo rock. Ouais, je suis pas bien dans ma peau et je l'exprime. Soit ça crache son dédain pour le bon goût et la culture en écoutant de la tectonique et en faisant des mouvements complètement désordonnés. Massacrant l'œuvre léguée par Maurice Béjart. Bref, soit ça crache ses poumons en fumant comme les grands du lycée, soit ça crache sa bile au soir de sa première cuite pour faire comme le grand frère de l'autre. Je vous passe des réactions sur la digestion que peuvent provoquer la lecture de la plupart des skyblogs. Mon estomac est déjà assez mal. Bref, un ado, c'est anal, pardon, c'est banal et c'est chiant. Ouais, on sait, on l'a tous été. Bon, oui. Mais quand la dessinatrice Vanida prend le pari de le traiter sur le ton intimiste, sans déformation, dans son quotidien et sans artifice, comme le veut l'étiquette Nouvelle Manga, et comme l'a fait avant elle Tito pour sa série Tendre Banlieue, Valentine entre en troisième et elle a 14 ans. Et elle a décidé d'affirmer sa personnalité en faisant tout comme sa bande de copines. Oui, sauf que, en fait, elle n'est pas vraiment comme ses copines. C'est une individu. Et finalement, pourquoi fait-elle comme les autres ? Et pourquoi a-t-elle honte de parler, par exemple, du garçon qui fait chavirer son cœur ? Ou pourquoi, finalement, elle trouve « Ouais, c'est cool ton truc, mais en fait, non, c'est pas cool, c'est naze. » C'est les changements qui commencent à arriver, l'âge des responsabilités, du passage de la cour des grands du collège à la cour des genoux du lycée, et des premières réflexions sur soi-même. Les tomes suivants s'intituleront « Celle que je voudrais être » et enfin « Celle que je suis ». C'est la construction de la personnalité d'un adolescent que l'on aura dans cette trilogie. Ce qui demande du temps à raconter, mais Vanida a toujours su raconter les relations en prenant du temps. Par exemple, elle a fait pour l'immeuble d'en face et pour l'année du dragon. Le tempo est lent, le dessin manga rebutera forcément bien des gens, mais cette œuvre est une bonne occasion pour essayer de comprendre l'ado, cet éternel y compris. Non, non, c'est pas éternel un ado. Au bout d'un moment, ça mûrit, heureusement. Mais l'ado, c'est, par définition, l'âge bête. Voilà. À moins que ça soit justement l'ado qui vous agace trop à se demander dans ce cas-là ce que vous étiez à cet âge, exactement. Ah, de suite, ça ricane moi. Vanida, je rappelle qu'elle a eu le prix du meilleur manga aux États-Unis, décerné par la libraire pour les mômes d'en face. Oui, elle habite quand même à Lille, hein, elle n'est pas du tout japonaise.
Encore une. Oh là.
Encore une. Vanida, celle que je ne suis pas, le tome 1, donc vient de sortir chez Dargo. We'll be right back. Présentateur d'Obi Mono sur Ande par Toba.
Alors aujourd'hui on a du Wong Kar Wai. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout ça pour les occidentaux, Wong Kar Wai. Wong Kar Wai c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est le cinéma d'auteur hongkongais. C'est quoi les autres là qui font du truc un peu hystérique? Non, nous c'est Wong Kar Wai quoi, c'est Télérama tout ça. Enfin, excuse-moi, j'ai un fan de Télérama à cette table. Hein. Parce que voilà, tu es le seul lecteur de Télérama que je connais, c'est pour ça.
Le seul qui ait vu du Wong Kar Wai.
Oui. Non, t'es méchant.
Non, ah ouais, t'as perdu.
À part depuis merde, celui qui est connu là.
The Mood for Love.
In the Mood for Love. Mais ceux d'avant.
Oui. Ah oui, mais ceux, oui, ceux oui, d'avant quand même. Quoi.
On les a tous
j'espère.
Vus.
J'espère. Hein.
Quand même.
Non, mais attends, c'est pas moi. C'est pas parce que tu lis Télérama que tu vas faire ton Républicain. Hein.
J'ai jamais dit ça.
Écoutera le podcast. Alors, pour comprendre.
Aujourd'hui, on parle de My Blueberry Nights qui est dispo en DVD et c'est un film de donc de Wong Kar Wai avec Norah Jones, Jude Law, ouh, Rachel Weisz et Natalie Portman. Ouh. Alors, Jérémy tient une brasserie tous les soirs. Elisabeth, le cœur brisé, vient parler avec lui avant de mettre les voiles, voir du pays, économiser pour s'acheter une bagnole. Au cours de son périple, elle cumule deux emplois de serveuse, rencontre un flic attachant, largué par sa nana et noyant son chagrin dans l'alcool. Et puis en route vers la côte ouest, elle fait un bout de chemin avec Leslie, une flambeuse au poker ayant coupé les ponts avec son père. Alors, de toute façon, Wong Kar-wai, c'est le cinéaste de la solitude, des gens qui errent un peu en rasant les murs, dans les cités.
Non, mais je viens de faire une chronique de Vanida, là.
Ah non, mais c'est pas des ados, chez Wong Kar-wai. C'est pas des ados. Alors, donc Wong Kar-wai tente l'expérience de tourner aux États-Unis, donc il adapte justement ses personnages qu'il affectionne, comme je vous disais, terriblement solitaire, à la géographie des États-Unis, puisqu'avant c'était des personnages qui se croisaient, mais trop sans se connaître, dans des bars, ils parlaient un petit peu, mais c'était sur l'incommunication liée à la cité tentaculaire de Hong Kong. Et ici, en fait, il joue justement avec l'éloignement également géographique, puisque c'est les éloignements sentimentaux et géographiques. Donc c'est un prolongement assez intéressant de son œuvre, mais soyez tranquille, j'en parlerai tout à l'heure, il y a beaucoup de réminiscences de ses précédents tics dans ses films. Alors Le mec, en fait, il aime bien dans ses scénarios jouer justement avec. Il s'attache d'abord sur un couple, ensuite il va complètement les abandonner pour aller vers autre chose. Justement, on se souvient de dans Happy Together, puisqu'il y avait le personnage de Leslie Cheung qui était abandonné à peu près à la moitié du film, et justement il en avait fait les frais. Et,
tiens, alors, lecteur Télérama qui l'a pas vu.
Ah non, mais il a dit hein, de toute façon qu'il avait pas vu les films pré In the Mood for Love.
Non, je pensais que vous n'aviez vu que ceux après In the Mood for Love, depuis In the Mood for Love, alors que moi je préfère de très loin ceux qu'il a fait avant. Et depuis In the Mood, honnêtement, je zappe en général.
Bah, il a entamé une espèce de trilogie là. Il faut dire qu'avant, entre Chunking Express, Les Anges Déchus et nos Années Sauvages, et etc., il posait sa signature, mais c'était quand même un peu de la redite aussi.
Tout à fait.
In the Mood for Love, ça a engendré donc 2046, dont il y a une grande partie 2046 qui est exactement le prolongement d'In the Mood for Love avec le même personnage. Il a fait un segment pour le film Eros avec Soderbergh et Antonioni, c'était à peu près la même chose aussi. Et c'est vrai que là, c'est à peu près la même chose aussi, sauf que c'est aux États-Unis et puis il joue un petit peu avec la transposition. Alors là, le film bénéficie d'un casting féminin normatif, hein, puisque Norah Jones, elle s'en sort pour son premier CO cinéma en tant qu'actrice. En plus, c'est une chanson qui vient souligner les scènes aussi, c'est elle qui chante, donc évidemment, voilà, ça fonctionne vachement bien. T'as Rachel Weisz, justement, elle nous fait de plus en plus oublier qu'elle a joué dans Les Momies. Puisqu'on l'a vu dans The Fountain, il faut quand même savoir que c'est Madame Aronofsky quand même. Et puis là, elle est sublime, hein, c'est la femme fatale par excellence. Et on a enfin Nathalie Portman qui est excellentissime en flambeuse au poker, elle est méconnaissable et vraiment absolument géniale. Et puis de toute façon, ponctuée par Jude Law, meilleur acteur du monde, hein, de toute façon, presque, enfin avec d'autres. Hein. Les mauvaises langues disaient que la patte de Wong Kar-wai c'était surtout son chef opérateur Christopher Doyle qui faisait tout. Christopher Doyle a été éjecté, alors on sait pas s'ils se sont brouillés tous les deux. Wong Kar-wai a fait appel à Darius Conji, un autre grand nom de un chef op qui a fait photographier Seven et tous les carreaux et genêts. On dirait que c'est le même, hein, le chef op, puisque on retrouve tous les titres de Wong Kar-wai, genre il va isoler les personnages qui se sentent très seuls à travers une pluie, à travers des barreaux d'une porte, des réverbères et tout. Il va toujours s'arranger pour qu'il y ait quelque chose qui passe entre la caméra et le personnage pour dire attention, il est un peu dans son monde à lui. Et évidemment, il y a toujours ces fameux ralentis saccadés, hein. C'est ralenti où il y a les personnages qui sont en train de se torturer le cerveau en train de regarder le ciel ou l'œil, le regard un peu vague avec une petite fumée de cigarette pour faire comme une pub pour un parfum. La pub pour un parfum résumant les films de Wong Kar-wai, je l'ai entendu par des profs aux Beaux-Arts. Hein. Bah non, c'est des pubs géantes pour des parfums, ces films, c'est n'importe quoi. Bon.
Comme quoi les profs des Beaux-Arts lisent Télérama.
Ça chronique sur Télérama, désolé. Hein.
Ah bon, tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas lu.
Donc
aujourd'hui, on est sympa et hétéro, on dit du mal de Télérama.
Le pire, c'est que aujourd'hui, j'ai failli vous l'amener. En général, je ne l'amène jamais, mais je me suis dit ce matin, tiens, je pourrais le prendre histoire de dire d'autres films qui passent autres que ce que dit du sport.
Tu vas être surpris.
Donc Wong Kar-wai utilise justement la transposition de son univers aux États-Unis pour s'approprier un petit peu la mythologie américaine, puisque le film peut se voir comme un road movie, puisque le film est divisé en trois parties. À chaque partie, c'est un genre à lui tout seul, puisque la première partie avec Jude Law, c'est vraiment un huis clos à deux personnages où on s'attarde juste avec Norah Jones et Jude Law qui parlent après quasiment la fermeture de la brasserie. Ensuite, on a le road movie à tendance Thelma et Louise avec la partie avec Nathalie Portman qui est très bien aussi. On a le drame amoureux qui fait la jonction entre les deux. Il faut savoir que chaque segment c'est pas vraiment un film coupé en trois. Hein. C'est un prolongement avec les pérégrinations du personnage de Norah Jones qui voyage à travers les États-Unis en quête pour économiser, pour s'acheter une bagnole. Et puis Wong Kar-wai, on sent qu'il joue quand même, il s'amuse. C'est un mec qui va un peu triturer l'image, qui va par justement le fait que Jude Law à un moment donné va réparer la caméra de surveillance. Toute la scène est vue à travers la caméra de surveillance. Au début c'est flou, on le voit avec une tournevis en train de triturer ça, l'image passe en noir et blanc. C'est quelqu'un qui aime bien mettre des séquences entières en noir et blanc, des séquences saccadées dont je parlais de ça tout à l'heure, qui va jouer aussi sur la saturation des couleurs éclairées au néon. C'est quelqu'un qui adore triturer un petit peu, on dirait des successions de photos des fois, même dans des films comme le Wuchapan, enfin obéissant au genre Wuchapan, comme les Cendres du Temps, film en costume qu'il avait fait avec des sabres. C'était vraiment tourné comme un film urbain qu'il a l'habitude de faire, et là c'est vraiment intéressant de voir à quel point Wong Kar-wai s'approprie un petit peu la mythologie américaine, puisque l'action se passe à Memphis, à Las Vegas, etc., et qui va s'amuser avec tout ça. Bon, de toute façon, il faut savoir que ce film va conforter autant les détracteurs que les fans, hein, puisque les détracteurs vont retrouver l'éthique absolument insupportable chez Wong Kar-wai. On peut taxer ces films de creux, ça aurait pu tenir en court métrage, il fait toujours la même chose. Bon, ben, de toute façon, c'est le propre des cinéastes auteurs qui font toujours le même film, transposé dans des univers différents. Après, les fans apprécieront toujours.
Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu es en train de dire que Roland Emmerich est un autre cinéaste d'auteur? C'est creux, ça peut être réduit à un court-métrage, il fait toujours la même chose.
ça supposerait qu'il y ait quand même une volonté derrière ces films, je ne sais pas. C'est à méditer, la frontière entre le cinéma de genre et le cinéma d'auteur, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs reconnus qui font du cinéma de genre. C'est un truc à, je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais c'est vrai que c'est, de toute façon, ça a toujours été le débat entre les anciens lecteurs de Starfix qui sont devenus auteurs reconnus, et justement des gens comme les journalistes positifs ou du Cahier du Cinéma, quand ils ont commencé à faire leur couverture sur Batman, la frontière entre les deux genres c'est un peu amenuisé. Pour finir sur My Blueberry Nights, en fait ça a quand même les caractéristiques d'une transposition comme avait pu faire Kitano avec Aniki mon frère. Tu sens qu'il réinvente pas trop son univers, qu'il se contente juste de transposer aux États-Unis ce qu'il a pu faire en Asie, mais tu sens aussi qu'il s'amuse, et que c'est un film qui peut être un peu plus accessible pour les gens qui connaissent pas sa filmo et qui vont ensuite avoir envie de voir ses films asiatiques. Donc c'est en ça que le film est aussi intéressant. On pourrait qualifier ce film de mineur, mais il a quand même pas mal de, justement, les détails dont je parlais tout à l'heure, assez intéressant pour ne pas juste dire que c'est un film mineur. C'est un film à voir pour les amateurs de Wong Kar-wai, de toute façon. Et puis voilà, donc parmi les films dont on parlait, pre-In the Mood for Love, bon, il a fait 2046 entre temps. Bah, il y a Les Cendres du Temps, le Wuchapan, il y a Chungking Express, Les Anges Déchus, qui sont vraiment très très bien. Il faut savoir que Les Anges Déchus, c'est un film qui est vraiment. Presque claustro, puisque les personnages sont filmés entièrement au grand angle, dans des perspectives super déformées, dans des bars totalement fermés, dans des apparts, etc. Et après, je sais pas si vous avez des films préférés, vous, de Wong Kar-wai, si vous connaissez suffisamment son œuvre.
Ils vous regardent tous là.
Chungking Express.
Ouais, c'est le film le plus connu de toute façon.
À mon avis,
qu'il a fait là-bas.
Ouais, c'était celui-là.
Il y avait l'excellent Happy Together sur la.
Happy Together aussi.
Sur l'histoire d'amour homosexuel en Argentine, où on voit Tony Leung jouer au foot. C'est assez rigolo. Donc on va rappeler les références. Donc My Blueberry Nights, nouveau film de Wong Kar-wai, disponible en DVD avec Nora Jones, Jude Law, Rachel Weisz et Natalie Portman. Et on entendait tout à l'heure la BO de In the Mood for Love. C'est rigolo parce qu'on entend exactement le même morceau, mais cette fois joué à l'harmonica. Alors je dis à Sabrina, mais attends, je connais cet air. Et puis en fait c'est la même musique, mais harmonica quoi.
Donc, version US quoi.
Voilà, exactement.
C'est dans quel film qu'on entend les Beach Boys? C'est dans Chungking?
C'est dans Happy Together.
Non, parce que celui-là j'ai pas vu. Avec ils mettaient la cassette dans le poste, c'était tout le temps les Beach Boys.
Ils vont finir par trouver. Allez, ouais. Midi 36 minutes et 37 secondes, et il y a la régie qui dit: il y en a marre de vos trucs d'intello, merde! Du pognon de la pub.
Le 11 septembre, au cri de la mouette, mamie s'évade de la maison de retraite. Simone Schul, le side project de Psycup, fera son premier concert le 11 septembre. avec Divine, pop anglais, et Akira and the Airborne Particles, électro-minimaliste. Simone Schull, premier concert, première date, c'est le 11 septembre au Cri de la Mouette à Toulouse. Et c'est 6 euros. Appelez FMR au 05 61 580 580. Il y aura des places à gagner pour ce concert. 05 61 580 580.
C'est pas la peine d'appeler maintenant, on n'a pas de place.
Éphémère.
Si je retenais celui qui a eu cette idée stupide de bande annonce, j'en ferais des cacahuètes. Non, je sais pas. JB a dit, il est temps
de passer au quiz, messieurs dames.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Vous nous parlez tout le temps de télé et de cinéma, hein? Alors si je vous dis des noms de personnes, vous allez me dire sur quelle chaîne ils travaillent actuellement?
Sur quelle série?
Sur quelle chaîne?
Chaîne.
Chaîne. Oula. En pleine période du mercato.
Exactement.
Ah non, le mercato est fini.
Ouh, attends.
Non, c'est fini. Attends. C'est lancé, messieurs dames. Bon, je vais faire Ross. C'est facile, hein, je vous l'avoue. Si je vous dis Anne-Sophie Lapix.
Canal.
Canal.
Quelle émission?
Plus clair.
Non.
Non, la matinale?
Non.
Le vrai journal?
Non.
Non, dans les infos
le
de midi, là.
Non, tu t'en rapproches, mais c'est pas ça.
L'émission spéciale, non?
Non, bon, je vous donne le long au chat.
Hein. Oui.
Dimanche plus, à la place de Ferrari.
Oui, c'est vrai.
Allez, on continue. Virginie Efira.
M6.
Non.
Non, à mon avis,
non,
elle est
sur
partie
sur,
non.
Sur TV1.
Non.
Non.
Elle a monté en grade.
Après, dans le JT.
TF1.
Non.
Elle est directrice de quelque chose.
Non.
Pas directrice de programme.
Non, elle est pas directrice de programme, mais elle est dans une émission un peu plus intéressante quand
elle
même.
Elle présente plus le Nouvelle Star.
Non.
Ah bon?
Eh oui, elle n'est plus sur M6, messieurs dames. Elle est partie sur Canal. Elle est partie au Grand Journal. Avec le geek de Denisot.
Mais elle remplace l'autre connasse là, de. Oh. L'ancienne de Fogiel là.
Non, Massenet. Non, Massenet reste toujours au Grand Journal. Et moi je l'aime bien, Massenet. Hein.
Ariel.
Ah, Ariane.
Ariane
Massenet.
Ariane.
Pour ne pas confondre avec Ariane Bourgeois qui est de Louise Bourgoin.
Oui, parce que c'est un Massené, question qu'elle pose.
Alors, ça fait quel effet d'embrasser machin?
Ben pourquoi pas, hein, c'est le côté
non,
people.
Non, je suis pas d'accord.
Moi j'aime bien.
Bon, allez. Tu lis Télérama.
Fogiel.
Bon, si tu poses
la
question.
Il ne fait plus de télé.
Il ne fait plus de télé, effectivement. Il est parti sur Europe 1, sur
Europe,
la matinale.
Ouais, Europe, ouais.
Allez, Julien Courbet.
France 2,
il fait le service public.
19-20. Hein,
oui.
Access Prime Time.
Et son émission s'appelle Service Maximum, à ne pas confondre avec justement Service Minimum, l'émission de Louis Bourgoin que je viens de préciser. Très bien. Allez, Benjamin Castaldi, que va-t-il faire depuis la finale?
Bah, là, il est en train de finir son CDD à TF1 avec une télé-réalité qui ne marche pas.
Après Secret
Story. Non, qui a mieux marché qu'on ne le pense par rapport à d'autres.
Ouais, c'est vrai en plus.
Bah, il reste sur TF1 lui?
Non. Il part sur une chaîne de la côte sud.
Ah, TMC.
Voilà, il va faire la dernière chance. Une émission de coaching pour couple, messieurs dames.
Cool.
Avec Jean-Pierre Foucault.
Et c'est un spécialiste.
Oh non.
D'ailleurs, Castaldi, comme je vous disais, sera rejoint par Jean-Pierre Foucault dans J'ai mon mot à dire, où des enfants joueront aux journalistes.
D'accord.
Allez, un petit dernier. PPDA.
Alors, la langue au chat.
Alors, France 2.
Non.
France Télévisions.
Non.
Non. Ah.
M6.
Non. Il a demandé trop cher, personne ne le veut. Pré-retraite.
Canal Plus.
Vista. Pardon, la chaîne des vieux là.
Non.
Viagora.
Une chaîne sur le bouquet numérique.
Non, en fait, Xavier le sait parce que je lui ai dit hier soir, mais je lui ai interdit de le dire. Mais à lui de.
Non, mais là, tu casses mon jeu quoi.
Ah, si ce n'est pas pour les vieux, c'est donc pour
les jeunes.
Voilà.
Quelles
sont
les
chaînes pour les jeunes?
Canal J.
Il va présenter le KD2A.
Non.
Télétoon.
Non.
Gulli.
Oui.
Gol.
Et oui, ça va défriser ta copine. Hein.
Attends, j'en ai encore d'autres si tu veux. Nickelodeon.
Qu'est-ce qu'il va faire sur Gulli?
Il va présenter un magazine littéraire pour les enfants sur Gulli. Moi, je trouve ça très très bien.
Oui, d'accord. Surtout le type de truc littéraire. Enfin bon.
Maintenant, petite question subsidiaire. Je voudrais savoir, mais que va faire Julien Doré cette année?
Il va faire un enfant à Louis Bourgoin et sauter un mouton et Camoulox.
Et voilà, Camoulox.
Et c'est Thomas qui remporte ce match avec un Camoulox très bien placé. Vous ne gagnez pas cet ensemble mini-téléviseur, récepteur FM et coquetier d'une valeur estimée à 1500 francs.
Non, sans déconner, il va faire quoi, Julien Doré ?
Mais je ne sais pas. C'est la question du jour. Je vous la renvoie. Non, effectivement, il est passé au César. Il a vraiment demandé voilà, je voudrais travailler dans le cinéma. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre ? On n'a pas de nouvelles.
Bon, enfin, plus exactement, le cinéma est sinistré en France. Oublie.
Je ne crois pas. Pas tant que ça. Pour preuve, un des films que je vous dirai quand ça sera la chronique de Du Sport tout à l'heure. À moins qu'il l'ait déjà prévu dans sa chronique.
Non, là il fait de la littérature.
Je passe ce morceau d'abord. C'est vrai que JB est très branché cinéma d'auteur d'appartement.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
En fond sonore ou en interruption ?
Oh, bah t'as qu'à le mettre comme ça et puis tu laisses tourner après.
Ok. Spencer Davis Group. Attention, la séquence qui suit parle de livres dans lequel aucune image n'a été insérée et exclusivement constituée de texte.
Si, si, il y a quand même des petites images, hein, mais c'est des petits trucs.
J'ai eu peur qu'on ne sache pas lire.
Oui, si, si, quand même. Hein. Alors, le premier dans la collection Alia, excellente collection, maison d'édition, hein, qui fait, et dans les textes oubliés de grands auteurs, hein, ça peut aller de Nietzsche jusqu'à Omar Khayyam, le poète persan, jusqu'à une collection qui est plus consacré à la musique de nos jours. Alors, vous avez tout, hein. Je vous avais déjà parlé des nombreux bouquins de Nick Tosh, où l'intégralité pratiquement de ces bouquins est parue dans cette collection, de Grail Marcus également, de Peter Guralnik également. Il y a également Basse Culture, quoi, le bouquin sur l'histoire du reggae. Il y a également la musique électronique, les post-punk, enfin... Il y a absolument tous les styles de musique pratiquement, hein, qui sont représentés dans cette collection au travers de ces bouquins. Et là, il s'agit d'un bouquin un peu spécial car ça raconte plus l'histoire d'un mec qui a navigué durant, on va dire, surtout la décennie des 60s, qui s'appelle Joe Boyd et qui a surtout fait carrière en Angleterre, alors que c'est un Américain qui est né à Boston, qui a fait ses études à Princeton et qui a découvert la musique dans les années 50, donc hein, au travers des émissions de télé. Il y en avait pas tellement, mais c'était déjà pas mal. Et Joe Boyd décide de franchir un petit peu le pas, c'est-à-dire il était un petit peu gavé de faire des études et d'être dans le moule bien américain des années 50 et années 60, hein, c'est-à-dire vous voyez ce que je veux dire, hein, ça a été assez caricaturé, et il décide carrément de franchir l'Atlantique pour aller découvrir la musique, en fait, parce que il était beaucoup plus fan, on va dire, de musique folk. À l'époque, eh bien, c'était pas encore l'émergence de Dylan, mais il y avait les anciens, les pré-Dylan, c'est-à-dire Pete Seeger qui marchait très fort, et tous ceux qui essayaient de réhabiliter. Non, de réhabiliter la musique traditionnelle américaine, hein, qui a donné lieu au country, au blues et aux autres formes de musique. Et donc, il était également fan de blues, hein, et d'ailleurs, il avait à peine 16 ans, quoi, qu'il dégote un illustre inconnu, un bluesman dans les années 30, Lonnie Johnson, un des meilleurs guitaristes de blues qu'on ait jamais connu dans le monde, hein, un des messieurs qui a inspiré un certain Django Reinhardt, entre autres, quoi. Et il le retrouve comme ça à Philadelphie, alors que le mec, il était retombé dans l'oubli, et pour ses 16 ans il fait une teuf et tout, en invitant Lonnie Johnson à venir se produire pour une petite teuf et tout, enfin bon, sympa, il va le chercher à la maison, il le ramène et tout, enfin bon. Et bon, il s'est dit que bon, bah peut-être que ça pouvait marcher. Il organise 2 ou 3 concerts comme ça qui marchent un petit peu mieux, hein, plus dans le domaine de la folk. Il se fait contacter à cette occasion par des mecs qui commencent à avoir des maisons de disques ou qui font partie d'un département de disques d'une grande compagnie, qui disent tiens, tu pourras aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe en Europe. On voudrait développer un petit peu le marché du côté de l'Europe et tout. Et Joe Boyd saute sur l'occasion parce qu'il sait très bien qu'en Angleterre, justement, beaucoup de groupes au début des années 60 et jusqu'au milieu des années 60, eh bien, prennent comme inspiration les bluesmen américains, un genre complètement méprisé aux États-Unis, hein, tombé dans l'oubli, hein, et ce sont les groupes anglais qui vont justement faire redécouvrir le blues aux ricains au travers des Stones, des Beatles un petit peu moins, mais d'autres groupes, les Stones en tête de gondole, bien entendu, après Led Six, Zepp, les Animals, tout ça, Led Zepp, c'est déjà la fin des années 60, oui. Bon, c'est déjà un petit peu, on va dire, recuit, quoi, mais les groupes originels. Et donc, il se retrouve en Angleterre, après beaucoup de pérégrinations, parce que lui, il ne se base pas uniquement sur Londres, c'est-à-dire l'atterrir à Londres, là où ça se passe et tout, mais il va également visiter toute l'Angleterre, il monte en Écosse, il va au Pays de Galles, il va faire un petit tour en Irlande, parce que une grande partie de la musique traditionnelle américaine, elle vient des immigrés, et une grosse partie de la musique, en fait, c'est la musique irlandaise, des chants traditionnels irlandais, qui étaient plus prépondérants, on va dire, que la musique traditionnelle anglaise. Il y a également la musique européenne, hein, les troubadours, les ménestrels européens, qui ont un petit peu abondé, qui a un petit peu fleuri dans cette musique qu'on retrouve maintenant de nos jours. Et Joe Boyd se retrouve embringué dans la production, dans la réalisation, dans le managering de groupes de ce qu'on a appelé la nouvelle scène folk anglaise, hein, c'est-à-dire Fairport Convention, Fogat, Incredible String Band, et des groupes comme ça, John Martin. C'est lui qui produit tous les albums de Nick Drake, hein, qui maintenant est un héros absolu pour beaucoup de gens, alors que Nick Drake est mort complètement dans la misère, pratiquement, ça n'a jamais marché, il a jamais pu vendre plus de 10 000 disques de son vivant, il est tombé dans la déprime, il s'est suicidé, quoi. Et bon, maintenant, Nick Drake, quoi, on l'a dans les pubs pour des bagnoles, des trucs comme ça, quoi. Et tous les jeunes de la chanson française ou de la chanson, de nouvelle chanson folk, disent Nick Drake, c'est mon héros, bon, enfin, bref, quoi, Nick Drake, qui est d'ailleurs
en quatrième de couverture.
C'est également lui qui va co-créer le fameux club mythique de Londres, l'UFO, qui a pas duré longtemps, hein, qui a duré de fin 66 jusqu'à, on va dire, début 68, hein, pendant les 6 premiers mois, c'est carrément la teuf tous les soirs et tout, avec comme groupe président Pink Floyd à son début. C'est lui qui produit le premier 45 tours de Pink Floyd, hein, c'est-à-dire Arnold Lane et la face B de Arnold Lane. Arnold Lane étant d'ailleurs un personnage réel de Birmingham, et Pink Floyd viennent de Birmingham, et qui était connu parce qu'il avait fait la une des faits divers, parce qu'il y a un petit penchant pour les jeunes gens et les jeunes filles, mais qui était très très petit. Donc truc un peu glauque et tout. C'est pour ça que Arnold Lane, le single, avait été censuré à l'époque, ne passait pas sur la BBC, mais la BBC censurait également les chansons des Beatles, certaines. Donc bon, ça ne veut rien dire, hein, de toute façon. Par la suite, eh bien, du fait de son implication dans le monde de la musique, il se lie d'amitié avec des gens qui sont devenus hyper connus par la suite, dont Chris Blackwell, qui est devenu un grand copain à lui. Chris Blackwell, qui justement, là, vous écoutez actuellement Spencer Davis Group, dont le chanteur Stevie Winwood allait faire défection vite fait pour monter son autre groupe Traffic, puis se produire en solo. Et Chris Blackwell tenait donc cette boîte de disques qui s'appelle Island, qui s'appelle toujours Island, bon, qu'il a revendu très longtemps après, dans les années 80, mais qui a commencé à produire, parce que Chris Blackwell avait également une maison en Jamaïque à côté de celle de Ian Fleming et de celle de Trevor Howard, ça ne s'invente pas. Et donc Chris Blackwell, dès le début des années 70, ben, a commencé à développer sur son label à côté de la musique progressive anglaise, hein, c'est-à-dire Yes, Genesis et toute la bande, eh bien le reggae. Et Joe Boyd, comme c'était son pote et qu'il était devenu quand même un bon producteur, hein, c'est lui qui a produit tous les albums de Nick Drake, j'y reviens, eh bien lui a fait produire également quelques albums de reggae, dont le fameux Toots and the Maytals, Reggae Got Soul, dans les années 70, voire 76-77. Joe Boyd précède un petit peu la vague, car dans les années 80, début des années 80, il se tourne vers le cinéma, il se fait embaucher par Warner, donc retourne à Los Angeles et va s'occuper de quelques petits films, dont le film Scandale à propos de l'affaire Profumo, et puis recommence à produire des disques dans les années 80, dans les années 90. Dans les années 80, comme par hasard, il s'intéresse à la, ça s'appelait pas encore comme ça, world music, et produit des musiques qui viennent des Balkans, des pays de l'Est, d'Égypte, du monde arabe, donc longtemps, longtemps avant la vague. Puis dans les années 90, 92, 93, 95, commence à s'intéresser à la musique cubaine, qui n'était pas encore au top tel qu'on la connaît actuellement. Donc ça a été quand même un précurseur. Dans White Bicycle, c'est surtout basé sur sa jeunesse, sa genèse et son accomplissement en tant que producteur et activiste de la scène londonienne, entre guillemets, dans les années 60. Puis après les années 60, début des années 70, on passe assez vite, hein, de toute façon. Mais c'est un bouquin vraiment très très instructif pour ce qu'on a appelé bien les The Golden Sixties, quoi, savoir tout un développement de la musique, la découverte, le changement qui s'est opéré dans la musique à cette époque-là, hein, qui est d'ailleurs toujours présent, quoi, actuellement. White Bicycle, donc ça c'est le bouquin qui est sorti aux éditions Alia par Joe Boyd. Deuxième musique, allez vas-y, fais péter. Alors, si Joe Boyd est assez intéressant, mais néanmoins, j'ai complètement occulté le fait qu'il produisait également des groupes de jazz, hein, qu'il accompagnait de nombreux groupes de jazz en tournée en Europe, dont certains concerts qui se sont déroulés à Toulouse dans les années 60. Hein, il le cite dans le livre. Hein, il a également été en Autriche avec des jazzmen relativement connus, hein, Coleman Hawkins, enfin des bons jazzmen, hein, vraiment, quoi. Les jazzeux de Toulouse qui sont encore vivants et qui avaient assisté à ces concerts à Toulouse doivent s'en souvenir, à mon avis, hein, et doivent se rappeler le bon temps du jazz à Toulouse. Le deuxième bouquin, alors là, c'est un bouquin qui se lit nettement plus facilement et c'est plutôt du côté des people, côté people, qu'il faut savoir qui a la plus grosse bite dans le monde du rock. Non. Est-ce que vous le savez? Ah, ils sont deux ou trois comme ça, hein, à détenir un petit peu cette pas cette réputation, mais qui a été vérifiée de visu.
Snoop, hein, Dogg, je sais pas.
Non, pas du tout. Dans le monde du rock, hein, dans le monde du rock. Iggy Pop figure en bonne partie. On a également Jimi Hendrix, hein, qui paraît-il était bien monté. Et David Cassidy. Là, tout le monde rigole. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez pas qui est David Cassidy. Et c'est tant mieux, d'ailleurs. Alors, ce bouquin est un bouquin de, c'est un, on va dire pas un rocker, mais un mec qui faisait de la musique, un américain qui faisait de la musique, qui a été vachement connu dans les années, fin des années 60, dans les années 70 et tout. C'est de la musique pour midinette, on va dire, hein, tu vois.
Genre les Carpenters?
Non, un peu plus rock quand même que les Carpenters. Oui, mais enfin bon, hein, ça restait.
T'as acheté la compilation.
C'était du bubblegum rock. C'était du bubblegum rock, si tu vois. D'accord. Un petit peu le genre, quoi. Alors, le deuxième bouquin, c'est Pamela Desbarres, et le titre, c'est In Bed With 24 Groupies Raconte. Ce qui n'a rien à voir avec le titre original, d'ailleurs, hein. Pamela Desbarres, elle est quand même relativement vieille. Elle a 60 balais, d'ailleurs, cette année. Elle a écrit plusieurs livres, dont le premier qui a fait beaucoup de bruit, c'est en 87, I'm With The Band, Confession of a Groupie, qui n'a été édité qu'en 2006 en France, donc traduit et édité par Le Serpent à Plumes, Confession d'une Groupie, dans laquelle elle racontait toutes ses histoires avec toutes les rock stars, hein. Bon, elle s'est tapée Jimmy Page, Keith Moon, Mick Jagger, elle s'est mariée avec Michael Desbarres, le chanteur de Power Station en 77 jusqu'en 90 où elle a divorcé parce que bon, lui aussi, il allait voir de côté, mais enfin bon, ça c'est une question d'habitude, de toute façon, quand t'es dans le rock'n'roll. Elle a également écrit Rock Bottom, Dark Moment in Music Babylon, des petites anecdotes un petit peu croustillantes sur le monde du rock. Take Another Little Piece of My Heart en 93, toujours pas traduit d'ailleurs. Et Let's Spend the Night Together, donc titre original de In Bed With, qui est sorti en deux versions, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, en version paperback, c'est-à-dire une version un petit peu édulcorée, on va dire, hein, version pas la version gros bouquin, mais la version bouquin de poche, et la version hardcover, c'est-à-dire intégrale, de ce In Bed With 24 Groupies Raconte. Alors, très intéressant, parce que ça me replonge dans le monde de la musique à l'époque où Pamela Desbarres, Pamela Ann Miller, de son nom de jeune fille, eh bien opérait, c'est-à-dire 64-65. Et là, ce qu'on peut dire, alors il y a 24 histoires, il y a 24 groupies donc qui vont défiler, raconter un petit peu leur histoire dans le monde du rock, et on peut dire qu'il y a quand même quelques constantes, hein, savoir que ces nanas aimaient la musique, ont flashé parce qu'elles sont plus ou moins toutes de la même période, elles ont plus ou moins toutes le même âge que Pamela Desbarres, donc elles ont flashé quand elles étaient toutes petites sur les mêmes genres, à savoir Elvis, à savoir les Beatles et les Rolling Stones, bien sûr, pour le côté un petit peu sexe. Moi je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait trouver de sexe aux Beatles, quoi. Mais enfin bon, ça regarde que moi, de toute façon. Mais par contre, il y a certaines nanas, il y en a qui sont très connues, hein. Patti d'Arbanville, très connue, hein, de toute façon, hein. On la voit même dans Les Sopranos. My Lady d'Arbanville, Cat Stevens et tout, ça a été la petite amie attitrée de Cat Stevens avant qu'il ne devienne Youssouf Islam, à savoir un musulman convaincu. Il y a également Gail Zappa, la femme de Frank Zappa, qui a un petit peu fricoté avant de se marier avec lui, et qui est toujours d'ailleurs la maman de ses quatre enfants de Frank Zappa. Frank Zappa a décédé, paix à son âme, il y a 15 ans, en 93. Et il y a surtout il y a Bébé Buell aussi, quoi, c'est la maman de Liv Tyler, c'est pas n'importe qui quand même, hein. Mais il y a surtout, il y en a deux ou trois là qui m'ont flashé à fond les manettes, parce que j'ai quand même appris quelques trucs que je savais pas, tu vois, quoi. Ça fait plaisir, quoi, de lire des bouquins comme ça. Pamela Desbarres s'est également tapé Jimmy Page, là, le guitariste de Led Zeppelin, hein, bien sûr, hein. Jimmy Page qui paraît-il était un bon coup, mais qui était un petit peu jobard, quoi, c'est-à-dire de temps en temps il poussait, quoi, un petit peu. Alors on y parle également de Billy Idol et tout. Il y a plusieurs générations, hein. Il y a la génération des années 60, génération des années 70, la génération punk également.
Elle s'est tapée Meatloaf.
Non.
Oh,
non, non, non. Mais alors par contre, il y en a deux ou trois là qui sont impeccables. Il y a déjà la première dans l'ordre d'apparition, Tura Satana. Alors Tura Satana, je vous en ai déjà souvent parlé à l'occasion des films de Russ Meyer, parce que dans le film Faster Pussycat Kill Kill, Varla, c'est elle. La nana avec les cheveux bruns et gros nibard qui fout la pâtée à tous les mecs et tout, quoi, qui castagne tout le monde et tout, c'est elle, Tura Satana. Et en fait, Tura Satana, on la voit également, on en parle également dans le Mad Movie hors série que je t'avais prêté, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà, ok, tu vois un petit peu qui c'est?
Oui.
D'accord, elle qui, a une enfance très sordide, se fait violer à l'âge de 10 ans, enfin bon, comme elle était issue d'une minorité ethnique à l'époque, elle est née dans un camp de prisonniers japonais. En Californie, tu sais, les camps qu'ils avaient dans l'Empire, comme dans l'Empire du Soleil, quoi, de Spielberg, quoi, pareil, quoi. Et donc, enfance très sordide et tout, elle a appris à faire du kung-fu, des machins, enfin, les arts martiaux pour pouvoir se défendre. Elle forme son gang de nana pour pouvoir se défendre, pour castagner les mecs qui essayent de les chercher et tout. Et après, elle commence à une carrière de stripteaseuse normale. Alors, elle avait une technique spéciale, c'est que avec ses seins. Alors les stripteaseuses aux États-Unis dans les années 50 et 60, il faut savoir qu'on ne montrait jamais les tétons, hein. Ils étaient toujours masqués, les tétons, par des artifices divers, hein. Alors là, elle avait des espèces de petits pompons comme ça accrochés au bout des tétons, de telle manière à ce qu'on puisse pas les voir, parce que c'était la loi qui voulait ça, hein. Pas le droit de montrer, quoi. Et striptease, de toute façon, tu vois jamais rien, hein. De toute façon, ce n'est que de la suggestion, le vrai striptease. Et elle, ce qu'elle arrivait à faire, quoi, c'est à faire tourner les pompons, mais dans les deux sens, tu vois, en même temps. Et elle précise en plus, et je pouvais le faire même coucher. Ok, ok. Et son moment de gloire, quand même, c'est d'avoir pu baiser avec le king lui-même, Elvis Presley, de lui avoir appris à faire une bonne pipe, de lui avoir appris à bien rouler des palos et de faire de bons cunnilingus. Excusez-moi les enfants, mais bon, c'est comme ça, hein.
Après, j'ai loupé le maracar, mon là.
Voilà, ouais. Après, on a une autre là qui m'a vachement botté. J'avais déjà entendu comme ça un petit peu parler d'elle et tout, parce que c'est une artiste de renom actuellement, hein. C'est Cynthia Plastercaster, qui est d'ailleurs une des égéries de Frank Zappa dans les années 60, qui faisait partie de la bande de Nana qui traînait autour de Frank Zappa and the Mother of Indian Inventions, qu'on peut voir dans 200 motels, qu'on peut voir dans sur les pochettes des premiers Frank Zappa d'ailleurs. Et elle, ce qu'elle a développé, alors c'est assez rigolo, assez marrant. Bon, elle avait un physique un petit peu moins avantageux que les autres, qui était quand même, bon, relativement canon, on va dire, hein, bien proportionné et tout, puis bon, relativement mignonne, quoi. Elle, bon, elle faisait beaucoup de complexes et tout, et s'est dit, bon ben, je vais trouver un moyen différent d'approcher mes idoles, de pouvoir être avec elles, de pouvoir partager des trucs et tout, je vais faire des moulages de leurs beats. Alors bon, la technique utilisée au départ, ben, elle s'est dit, bon, on va prendre du plâtre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Cynthia Plastercaster. Plastercaster, c'est celui,
c'est le
plâtre, et caster, c'est le mouleur, quoi. Ouais. Ok. Alors donc, elle commence avec du plâtre et tout, mais c'est pas bon, ça colle au poil et tout, puis démouler, ça marche pas, même avec la vaseline et tout. Et donc, elle trouve un artifice, c'est ce qu'emploient les dentistes pour faire des prothèses, quoi, tu vois. Donc, la matière qu'ils utilisent. Et donc, ben, elle commence à, dans les fin des années 60, son premier, je crois que c'est Jimi Hendrix carrément, quoi, tu vois. Alors bon, et elle arrive comme ça, ben, à réunir plein de moulures de. Alors elle faisait ça avec une copine. La copine s'occupait du mec pour le maintenir en condition, pendant qu'elle préparait le mélange de telle manière à pouvoir faire le moulage, quoi. Et donc elle a perfectionné sa méthode, et au fur et à mesure des années, ben, elle a réussi à choper une collection assez impressionnante de membres virils appartenant aux rockstars les plus connus.
C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait la plus grosse.
Voilà, non, c'est non. Également parce que bon, beaucoup de nanas ont fréquenté les mêmes, quoi, si tu veux, quoi. Et donc par comparaison, on pouvait dire, ah ouais, lui, oh là là, quel monstre, oh là là. Et donc Cynthia Plastercaster, donc par la suite, s'est fait déposséder de sa collection. Elle a pu récupérer, mais elle a dû aller devant un tribunal. Parce que il a fallu produire les éléments dans le tribunal, les éléments de du procès, quoi. Donc c'était un petit peu gênant pour certains membres, on va dire, hein, sans et bon, bah ça quand même bien passé, parce que bon, bah, elle a réussi à récupérer ces trucs. Un mec lui avait carrément, non, c'est à moi, tu me les avais laissés comme ça, maintenant c'est à moi, enfin bon, l'histoire sordide. Et puis bon, comme ça se passe souvent aux États-Unis, quoi. Donc, et maintenant, bon, elle continue toujours à faire des expos et tout. Elle fait actuellement des expos sur une thématique sans sperme, sexe. Donc, ça peut être intéressant, quoi. Et là, son site, son site internet, de toute façon, vous pouvez taper un Cynthia Plastercaster, et donc vous allez tomber. Vous pouvez d'ailleurs acheter des moules. Des reproductions, donc elle les met en vente, hein. Bon, pas les originaux, mais des reproductions, donc de moules des membres de vos artistes préférés.
Super, super comme cadeau pour un Saint-Valentin.
Ouais, je vais arrêter là. Je pourrais vous parler également de Miss B, qui elle a beaucoup fréquenté un certain Kurt Cobain. Yes. qu'elle décrit comme un mec qui était vraiment torturé, que ça l'a pas étonné que le mec il se tire une balle dans la tête et tout quoi. Il y a également Patty et Lisa qui étaient spécialisées dans toute la scène punk californienne, hein, mais pré-punk, à savoir les Germs les premiers quoi, et qui a beaucoup fréquenté un certain Billy Idol, hein, dans sa période californienne héroïne, et qui avait quand même des goûts un petit peu bizarres, on va dire, que je vais ne pas développer à l'antenne parce que c'est quand même un peu trop.
Pas encore 23, 22,
non,
30,
c'est un peu trop là, tu vois, c'est un peu trop. D'accord. Mais enfin bon, ça désacralise un petit peu.
C'est vous qui va être déçu.
Ouais, mais il aime pas tellement, lui, je pense pas, quoi, tu vois. Par contre, certains autres, ils pourraient être déçus, quoi. Il y a pas de problème, hein. Alors bon, c'est bien parce que bon, les nanas, avouent avec franchise ce qu'elles ont fait, elles racontent des anecdotes, leur histoire et tout, n'ont pas du tout honte de ce qu'elles ont fait, hein. Bon, il y en a une carrément, on pourrait croire que c'est un petit peu dur et tout, quoi, parce que bon, non, sans jeu de mots, parce que bon, bah, la nana avoue carrément, ouais, moi je me tapais tout le crew, c'est-à-dire pour approcher les artistes et tout, tous les roadies, les mecs des éclairages et tous les mecs à l'entrée, hop, une pipe à tout le monde, comme ça j'étais sûr d'y arriver, tranquille, sans problème et tout. C'est la nana qui vient de Little Rock d'ailleurs, Arkansas, et qui s'est retrouvée dans une position un petit peu inconvenante à un moment donné avec celui qui était gouverneur de l'Arkansas à l'époque, un certain Bill C. ça a d'ailleurs valu à Bill C quelques petits problèmes, on va dire, quand il a entamé sa première campagne présidentielle. Mais on a réussi à détourner le tir, et puis Bill C a quand même réussi à se faire élire President of the United States of America.
Comme quoi, même les saxophonistes sont des putains
de ouais.
Mais Monica B s'est bien rattrapée.
Monica L, tu veux dire?
Oui, Monica L.
Mais c'est l'autre. C'est l'italienne.
D'accord, aussi. Oui.
Ouais. En tout cas, c'est un bouquin que je peux conseiller, qui se lit assez facilement comme ça, tranquille. Hein. Il y a donc 24 chapitres. Un seul chapitre est décevant, c'est celui de Bébé Boel, donc la maman de Liv Tyler, parce que elle ne raconte pas du tout tout ce qu'elle a pu vivre dans ses époques dorées. Bon, on sait qu'elle a été avec les New York Dolls, qu'elle s'est tapée Steven Tyler, puisqu'elle a fait Liv Tyler avec, quoi, donc. Mais là, c'est plutôt un entretien de Pamela Desbarres avec Bébé Buell. Mais il faut savoir que Bébé Buell a également sorti son livre, hein, concernant ses aventures. Donc, regardez plutôt du côté du bouquin de Bébé Buell, mais qui n'est pas traduit en français, par contre. Bon, dommage. Alors, c'est donc le Pamela Desbarres, Let's Spend the Night Together, traduit en français par In Bed With 24 Groupies, raconte, sorti aux éditions Scali.
23h10 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end. On a toujours pas entamé la télé.
Oh,
mais non, il reste un troisième bouquin.
Ben ouais, il me reste celui-là. Alors le troisième livre que je vous chronique aujourd'hui, c'est quand même le livre qui m'a le plus intéressé. Mais c'est le livre le plus difficile à lire, car c'est carton, c'est écrit par W.T. Lamont Jr., hein, qui est un prof d'université en littérature américaine, encore en activité à l'université de Floride. Il a été licencié, où il a obtenu son diplôme à l'université d'Indiana. Il s'occupe également de l'histoire américaine à l'université. Il a écrit plusieurs bouquins, dont Deliberate Speed, A Study of the American Character, en 93. Il a écrit également Raising Cain, Blackface Performance from Jim Crow to Hip Hop, en 98. Et Jim Crow, Lost Plays, Lyrics and Street Prose of the First Atlantic Popular Culture, en 2003. Mais celui-ci, traduit en français donc par Peau Blanc, Masque Noir, est la réédition en format poche, hein, du bouquin qui était sorti il y a 3 ans et qui est la traduction de Raising Kane, Blackface Performance from Jim Crow to Hip Hop. Alors bon, je vais pas commencer grosse explication sur ce bouquin, je vais plutôt vous lire ce qui est marqué derrière, hein, parce que ça explique assez bien ce qu'il y a dedans. C'est très anthropologique, très sociologique, il y a des rapports de lutte des classes à l'intérieur, il cite Marx, il cite beaucoup de gens. On voit que c'est un type qui a beaucoup lu, surtout la littérature américaine, de toute façon c'est son job. Et par contre, hein, son rapport par rapport à l'histoire et à l'origine du spectacle aux États-Unis, eh bien, c'est vraiment assez confondant. Quoique, il s'attarde surtout sur la première période, à savoir au début 1820. 1820, New York, marché Sainte-Catherine, près du port, des nègres dansent pour gagner quelques anguilles. À l'origine monnaie d'échange, ces danses deviennent une marque culturelle pour le lumpen prolétariat bulgare fasciné par le charisme et la gestuelle des Noirs. Fin du XXe siècle, de part et d'autre de l'Atlantique sur MTV, Michael Jackson et MC Hammer se déhanchent avec des pas et des danses et des gestes identiques aux danseurs d'anguilles. Pourquoi ces gestes ont-ils perduré? Quel processus d'identification ont-ils mis en œuvre? À qui appartiennent-ils? Aux Noirs qu'ils ont créés ou aux Blancs qui, une fois grimés en noir, le blackface, les ont copiés et assimilés? Peau blanche, masque noir, à travers l'histoire des ménestrels du blackface et des lieux fondateurs de la culture américaine, explore cette longue mutation d'un lore limité aux frontières d'un marché multiethnique et en une véritable culture populaire atlantique où l'échange et la reconnaissance de gestes signent une appartenance. Le lore étant, au contraire du folklore, non pas la propriété d'un peuple, mais une matrice de savoir, de récits et de pratiques qui est tout entière affaire de circulation. Esclaves ou nouveaux affranchis noirs, mariniers ou commerçants blancs, tous vivaient dans les mêmes conditions d'une classe ouvrière, luttant pour que la culture dominante les laisse libres d'échanger les marques de reconnaissance culturelle qu'ils partageaient. Du sifflement de Bobolink Bob sur le marché de Sainte-Catherine à celui d'Al Johnson dans le chanteur de jazz, du Benito Sereno de Melville Herman de son prénom au Minstrel Boy de Bob Dylan, des peaux d'anguilles portées en guise de serre-tête aux dreadlocks afro, William Lamont offre ici une fascinante anthropologie, tagada, tagada, tagada. Voilà, c'est de tout ça que ça parle, mais c'est traité de manière un petit peu académique, un petit peu universitaire, on va dire. C'est quand même assez compliqué. On remarquera d'ailleurs que les notes de bouquins, les notes, c'est toute cette partie-là, tu vois.
Putain,
quoi.
Y a au moins, il y a au moins une trentaine de pages.
Donc, t'es obligé d'avoir deux signets pour lire le bouquin, pour suivre. Mais c'est vraiment très, très fascinant. C'est vraiment la genèse de ce qui a donné dans les années 1800 au départ le spectacle ménestrel, c'est-à-dire les spectacles itinérants, puis par la suite, par opposition au spectacle itinérant qui était vu comme étant un truc bas de gamme, qui justement, on voyait que le premier degré de ces festivals, de ces spectacles, à savoir les blackface, des blancs qui se maquillent en noir pour imiter les noirs qui en fait eux dans les plantations eh bien essayaient de se foutre de la gueule des blancs donc c'est un petit peu torturé comme truc. Par la suite, vers la fin des années 1800, est né le vaudeville par opposition au blackface ménestrel, à savoir les spectacles installés dans les théâtres. Le vaudeville a vu naître des artistes comme les Marx Brothers, qui sont vraiment les plus emblématiques, on va dire, parmi les plus emblématiques, et qui allaient connaître eh bien leur crépuscule au moment où le cinéma allait commencer à devenir parlant. On parlait du chanteur de jazz, le premier film de cinéma parlant avec Al Jolson, donc, qui était également un blackface ménestrel, qui s'est produit en noir. On le voit d'ailleurs dans le chanteur de jazz, il se grime en noir.
Parce que les producteurs étaient pas d'accord pour qu'il y ait un noir à l'écran. On est en 1920.
Ah non, c'est parce que il y avait
il
vraiment.
Il fallait que ce soit un blanc qui soit grimé.
Oui, non, mais ça faisait partie du folklore, On sait que beaucoup de gens, Louis Armstrong, black, se maquillait en noir. Plus, pour paraître plus noir, parce qu'il faisait également partie, il y avait également des noirs qui se maquillaient en noir, qui se passaient du liège brûlé comme ça, pour paraître encore plus noir, et pour bien montrer que il faisait partie de ce spectacle, de cette tendance qui s'appelait le blackface ménestrel. Voilà, alors c'est W.T. Lamon, peau blanche, masque noir, mais c'est absolument fascinant. Bon, par contre, il faut quand même s'accrocher quoi pour lire ça, ça se lit pas comme In Bed With de Pamela Desbarres. Rien à voir, mais alors vraiment rien à voir.
La, 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 la.
je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que du sport de théoriquement de 13h à 14h, il parle de sport, mais de 14h à 15h, c'est de la musique et c'est de la découverte musicale et ça ouais, arrache sa mère.
Il y aura du Lonnie Johnson à la fin de l'émission d'ailleurs.
Tout à l'heure.
Un peu de télé quand même.
Ouais, il est
dans
13h15.
Ce monde de brut. Non, 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 parce que là, tu vois, WT Lamonde, bon, ok. Hein, si vous faites que regarder la télé et écouter Radio Booster, c'est pas la peine. Hein, je vous le dis franchement, quoi. Vous n'avez pas la culture suffisante pour ce genre de bouquin. Mais bon, ça s'apprend, hein, de toute façon, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est en pratiquant hein, qu'on apprend. T'es pas d'accord avec moi?
Ah si, tout à fait. Ouais.
Bah, tu peux plutôt donner la liste des séries qui arrivent sur les chaînes de télé.
Oh mais tout à fait, Xavier. Avec ça démarre cet après-midi sur TF1 avec une nouvelle série qui connaît un gros succès aux États-Unis, hein, qui a remplacé dans le cœur des ados KLXY, qui était la série préférée des ados, hein, KLXY, hein, tu te rappelles quoi? Mais si si, non. Quand même. Eh bien là, il s'agit de Gossip Girl. Qui est à l'origine une série de 12 romans qui a été écrit par Cicely Van Zygezaar et qui a été adapté donc par la chaîne américaine CW. Tu connais
C'est la collaboration entre Columbia et Warner.
Exactement. Et où on a pu voir.
C'est une des mini-majors aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Où on a pu voir quand même quelques petits bijoux tels que Veronica Mars, entre autres. Hein,
enfin, ils sont spécialisés dans les séries ados hein, sur cette
voilà,
chaîne.
Voilà, ouais, ouais. Mais Veronica Mars, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, d'accord.
Ouais. c'est la reprise.
Il est pas d'accord. Hein. Ouais. Alors, ça a été adapté pour cette chaîne CW par Josh Schwartz, hein, qu'on avait déjà vu dans Newport Beach. Ah ah, on se dit, oula, ça va être un peu chaud quand même, quoi. Alors, ça raconte les aventures et les potins d'élèves de collège privé pour riches. Alors, Saint-Jude pour les garçons et Constance, c'est le nom des collèges, pour les filles.
Je vais chercher le générique Beverly Hills.
Alors, ces filles de riches, eh ben, ils se confondent dans des fêtes, des partouzes, alcool, drogue, sexe, et bien entendu, on en évoque également l'anorexie, l'homosexualité, la toxicomanie, bien sûr, de ces jeunes dépravés, qui savent de toute façon qu'ils n'ont pas grand-chose à foutre de l'école, vu qu'ils vont hériter de toutes les pépettes de leurs parents, qui sont ultra, ultra riches. Donc, le fil conducteur... Alors le fil conducteur quand même de cette série qui donne son nom à la série Gossip Girl est en fait un blog. Ah oui, bah ça vous intéresse, ils sont là, ouais, cool. Un blog dont on ne connaît pas l'originaire, on ne sait pas qui écrit ce blog et qui va commenter justement ce qui se passe entre ces filles et ces garçons, que font ces filles, que font ces garçons, et qui raconte eh bien tous les potins. Gossip en anglais ça veut dire potin. C'est la nouvelle série préférée des ados aux États-Unis, donc, hein, et TF1 l'a acheté genre putain ça a l'air d'être un carton, on va l'acheter tranquille et tout, mais pour la passer à un horaire qui me semble un petit peu déraisonnable, on va dire, pour qui voudrait suivre cette série, c'est cet après-midi à partir de 16h50 sur TF1. Autant dire qu'ils l'ont flingué direct et tout, que ce serait pas, c'est la même chose de toute façon. Donc cet après-midi 16h50 sur TF1, Gossip Girl. Une autre série, mais là, qui a l'air un petit peu plus pertinente et qui a l'air un peu plus qualitativement parlant intéressante, qui joue dans le fin humour anglais tel qu'ils savent nous le produire, hein, que ce soit l'humour caustique, que ce soit l'humour ravageur, hein, que ce soit l'humour déconne, tout simple.
The New Sick Man.
Non, 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 pas du tout. Ça s'appelle The It Crowd. Et par contre, c'est une mini-série qui passera sur TPS Star. Ce soir, à partir de 22h40, mini-série Pourquoi il n'y a que 6 épisodes, avec Catherine Parkinson, Chris O'Dowd et Richard Ayodé, entre autres. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir, avec dans le premier Les Givrés du sous-sol, eh bien, les aventures de Roy et Moss, qui sont deux techniciens incompétents, mais
attends,
qui sont chargés.
Attends, c'est Haitico?
Hein?
C'est Haitico?
The IT Crowd.
The It Crowd.
Putain. The It Crowd.
Non, c'est IT. On dit pas It, on dit IT.
Ah bah écoute, c'est écrit comme ça dans le programme, je suis désolé. Hein,
Information Technology.
Bah voilà, c'est ça.
C'est,
ouais, ouais.
C'est pas IT, c'est IT. On dit IT dans le milieu.
Là, il y a IT. Hein.
C'est monstrueux ce truc, c'est absolument génial.
Non mais juste, t'es tombé sur le méga fan d'IT Crowd.
Tu peux pas
ouais, mais c'est
tu peux pas louper face à moi.
C'est écrit IT.
Ça passe
moi,
sur quelle chaîne
it. Et c'est sur TPS Star, je viens de le dire, donc ce soir à partir de 22h40.
Ne loupez pas le deuxième épisode qui est vraiment le meilleur de tous.
Qui s'appelle Aïe mes pieds.
C'est quoi cette traduction?
The Shoes!
Alors chaque fois que ma copine sort, elle fait I'm a Schumann!
Yeah, yeah.
On cite la série.
T'as des copines geeks, alors.
Bah oui, mais c'est une série qui étonnamment est compréhensible par les non-geeks. C'est-à-dire, il y a autant l'humour qui concerne que les geeks, autant il y a l'humour qui concerne les non-geeks et qui a pleuré de rire.
Voilà, parce que bon, ça parle de
Tante Irma et tout ça.
Ça parle de Roy et Moss, hein, qui sont deux techniciens qui sont un petit peu nuls, mais qui sont quand même chargés de la maintenance informatique dans une grosse boîte, Reynolds Industries. Voilà, donc c'est ce soir sur TPS Star, 22h40. C'est tout au niveau des nouvelles séries. Sinon, il y a de nouvelles saisons de nos séries qu'on aime bien, à savoir la saison 2 de Torchwood. Là, on rigole. Qui a commencé depuis vendredi, depuis hier soir, donc hein, on a pu voir les deux premiers épisodes avec James Marsters, Spike, donc qui voulait un palo amoureux à Jack Harkness. Oh là 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 là,
énorme.
Oh là là,
énorme.
Après le poing dans la gueule, tout. Poum poum. C'est sur Energy 12, donc vendredi à partir de 20h45. Il y a deux épisodes qui sont de la saison 2 et après un autre épisode de la saison 1, c'est la soirée Energy 12,
le vendredi soir. Energy 12 le fait, manière TF1 maintenant.
Voilà. Jericho, la saison 2, ce soir sur M6. Alors Jericho, hein, qui a failli passer à la trappe à la fin de la saison 1, parce que bon, les résultats d'audience n'étaient pas bons du tout.
C'est la saison 1 encore qui passe, parce que M6 a essayé de couper en deux le nombre. Je peux te dire que les deux premiers épisodes passés, c'était
Laisse-moi
une.
Terminer.
Pardon.
Laisse-moi terminer. Alors, il faut savoir que Jericho, justement, au vu des taux d'audience insuffisants, eh bien, s'est fait sabrer à la fin de la première saison. Mais que les fans et tout ont poussé, envoyé des mails, ont bourré le crâne à tout le monde et tout. Oh, on veut une saison 2, faites chier.
Ils ont envoyé des cacahuètes.
Et donc, la chaîne a quand même décidé, repartir pour une saison 2. Mais, une demi-saison, car il n'y a que 7 épisodes qui ont été tournés à la fin du 7e épisode de la saison 2. Eh bien, ils disaient, on plie les goals, ça suffit, il y en a marre quand même. Alors ce soir, M6 vous diffuse donc à partir de 22h30 le dernier épisode de la saison 1, le 22e donc de cette saison 1, et juste après le premier épisode de la saison 2 qui voit apparaître Ezaï Morales, allez, le capitaine dans les dernières saisons de NYPD Blue. Le frère de Lou Diamond Phillips dans La Bamba, le frère de Richie Valens, ah ouais quand même, et ça y est Morales quoi. Ça c'est ce soir donc Jericho sur M6. Sinon West Wing, la saison 7 qui sera la dernière, est toujours sur Série Club et c'est une bonne chose hein. Au moins eux ils sont fidèles quand même, avec une saison qui de curieuses ressemblances avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. À savoir
c'est une primaire, oui.
Entre le candidat républicain et le candidat démocrate, qu'est-ce qui va se passer, qui c'est qui a été choisi et tout, parce que ça va se passer entre Alan Alda, parce qu'il faut savoir que Bartlett, le président Bartlett en est au bout de son deuxième mandat ouais. Martin Sheen, et donc il peut pas se représenter, donc ça va être un autre, et l'autre de son côté c'est Alan Alda. Et par contre, il y a un autre issu d'une minorité ethnique qui va se retrouver en face de lui. Bon là, ils auraient pu choisir quelqu'un de plus, coloré, ils ont pris Jimmy Smith, c'est quand même pas mal. Également un ex de NYPD Blue, hein, Bobby Simone, rappelez-vous. Et Jimmy Smith qui lui est plutôt portoricain, donc un petit peu moins coloré quand même. Mais ça le fait quand même, c'est toujours l'excellente série West Wing, donc sur Série Club c'est demain soir à partir de 20h45, trois épisodes, les trois premiers épisodes de la saison 7. Et ce soir, après le match de foot sur TF1, qu'est-ce qu'on a? Spécial Unit saison 9 avec Stabler et je me rappelle pas comment elle s'appelle, avec Christopher Meloni et Mariska Hargitay, voilà. Christopher Meloni quoi, ouais. Tu vois, excellent. Alors il s'est tapé Connie Nielsen, mais elle revient quand même. Y a pas de problème, Mariska Hargitay, mais bon. C'est normal, elle était un petit peu partie lors de la saison précédente parce que elle était un petit peu enceinte, donc ça le faisait pas de jouer en ayant un grand ventre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'avait envoyé en mission d'infiltration.
Le machin un peu fumeux.
Il y en a d'autres qui
sont enlevés par des E.T.
Alors bon, là, ça le fait mieux un petit peu, quoi.
Ouais, mais enlevé par E.T., tu peux figurer couché.
Voilà, donc c'est ce soir, hein, après le match de foot aux environs de 22h45. Non, après le tunnel de pub, donc on va dire à 23h. Hein. Ok. D'accord. Il faut savoir que pour le match de foot, il y a TF1. Ils ont sauté carrément en l'air parce que la fédération autrichienne voulait que le match il commence à 20h30. Et quand le match commence à 20h30, TF1 il s'arrache les cheveux parce que c'est entre 20h30.
Journal court.
Ouais, mais... non, mais journal court, mais entre 20h30 et 20h45, 20h50, c'est là que les pubs elles valent le maximum, tu vois. Et donc ils auraient été niqués au niveau du nombre de pubs qui pouvaient passer si ça avait débuté à 20h30, quoi. Parce que là, selon les tranches, la pub coûte plus ou moins cher. Et la tranche la plus chère, c'est entre 20h30 et 21h. Et pour eux, l'idéal, c'est que le match commence à 21h. C'est pour ça que très souvent, dans les matchs de foot qui commencent à 21h. Alors que bon, bah, on sait très bien que les matchs de foot, ça pourrait intéresser également les jeunes. Mais que les plus jeunes, bah, il faut qu'ils soient au lit assez tôt. Et quand un match de foot commence à 21h, ça veut dire qu'il finit aux alentours de 23h. Alors laisse tomber, qu'est-ce que tu veux que les jeunes regardent le match de foot le soir d'équipe de France? Enfoiré. Bon, je laisse tomber. La dernière surprise quand même, parce que bon, bah, tu rentres de vacances comme ça, t'allumes ta télé le dimanche soir, tu te dis bon, bah, y a rien le dimanche soir à la télé, des redifs, des trucs, des films, la nouvelle saison n'est pas encore commencée, c'est la fin des vacances. Ouais, c'est les boules et tout. Et en deuxième partie de soirée, tu tombes sur un truc, tu te dis, mais attends, c'est inédit ça, mince, John Leguizamo dedans, oh mince alors, Donnie Wahlberg dedans, oh mince alors, et ça s'appelle Kill Point en plus, oh mince alors. Et c'est la bonne surprise quand même qui nous est offerte par France 2, donc en deuxième partie de soirée. Alors la semaine dernière c'était à 23h, des bananes. Là, c'est un peu plus tôt parce que bah il y a un film en première partie soirée, on verra ça après. 22h35 pour Kill Points, alors une mini-série en 8 épisodes qui bah dans son concept est très très simple, hein. C'est des ex-soldats de la guerre d'Irak qui ont été rapatriés parce que bon bah pour diverses raisons qu'on va découvrir justement au fur et à mesure des épisodes, et qui décident bah parce que bon bah ils se sont fait oublier, on n'a pas pensé à eux, leur pension est minable, ou carrément on leur a sucré leur pension d'anciens combattants, et donc ils décident de commettre un braquage. Seulement le braquage tourne mal et ils se retrouvent dans la banque enfermés avec des otages. Et donc dans la banque, les preneurs d'otages, les otages, et tout autour, le SWAT à l'extérieur, plus le négociateur, interprété par Donnie Wahlberg, Johnny Leguizamo étant le patron des preneurs d'otages, donc, et c'est également le chef de la section, parce que s'agit pratiquement d'une section entière, enfin, 5 ou 6 bonhommes, qui étaient ensemble pendant en Irak, donc en tant que militaire à défendre l'honneur des États-Unis et les intérêts des États-Unis, bien sûr. Alors c'est vachement bien foutu quand même, hein. On pourrait se dire bon, c'est très bateau, ouais, la prise d'otage, Tagada, c'est déjà vu 100 fois, comment est-ce qu'ils vont encore pouvoir faire pour nous intéresser une fois? On avait déjà vu France 2 diffuser une série 52 heures en enfer, The Nine, qui a également trait à partir de ce qui se passe pendant une prise d'otage, pendant 52 heures justement. Mais là, c'était traité scénaristiquement de manière tout à fait différente, hein. 52 heures, The Nine, c'était plutôt basé sur les flashbacks et on découvrait au fur et à mesure ce qui s'était passé pendant la prise d'otage. Là, eh bien, ça commence par la prise d'otage et ensuite, bah, c'est linéairement parlant ce qui va se passer, ce qui va se dérouler au fur et à mesure des heures. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les affame, on va leur couper le jus et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Attention, remettez le jus ou on tue un otage. Enfin, le truc un petit peu classique, mais c'est quand même servi par de très très bons acteurs. John Leguizamo, on ne présente plus. Donnie Wahlberg, toujours meilleur que son frère. De toute façon, c'est marrant qu'on lui donne pas plus de grands rôles à ce mec-là. Bon, c'est vrai, il a une tronche. Bon, d'accord. C'est sûr.
Il y a un fan de Mark Wahlberg ici.
Oui. Mais moi aussi, j'adore Mark Wahlberg, tu vois. Mais je trouve que son frère joue mieux, quoi. C'est ça le truc, quoi. C'est dingue, mais c'est comme ça. Bon, Donnie Wahlberg, c'est vrai qu'il a la tronche de n'importe qui. Ok, hein, c'est pas sur ce mec-là que les jeunes filles en fleurs vont mouiller leurs culottes. C'est clair, quoi. En plus, là, sa nouvelle tronche dans Kill Point, il a l'air de s'être fait mettre des implants parce que bon, il a une calvitie naissante très jeune. Bon, bah ok. Et il a l'air d'avoir un peu grossi quand même, un petit peu, Donnie, là, pour ce coup-là. Mais c'est pas grave. Il le fait quand même très bien dans son rôle de négociateur et tout. Il y a également plein de petits seconds rôles comme ça qui sont des habitués, de très bons acteurs de télé et tout qu'on voit régulièrement dans d'autres séries. Ça vaut le coup quand même. Kill Point, donc c'est ce soir sur France 2 à partir de 22h35 après le film de France 2.
Pendant que vous avez nommé du Pat Labordeaux derrière.
Allez, pas vite mal. Dans la série les films à la télé cette semaine, je vous ai choisi des films français. Cocorico.
Allez. Et alors,
j'enregistre en ce moment, c'est pas possible. Eh bah, tu vas écouter en podcast.
Ah oui, oui, tu peux écouter en podcast, il n'y a pas de problème.
J'attends de voir les films que tu vas proposer.
Attention, tu vois, il y a de tout, hein, du lard et du cochon, du tout à boire et à manger.
Ouais.
Ce soir, sur Cinéma Star, à 23h05, Boulevard du Rhum de Robert Enrico, avec Lino Ventura, Brigitte Bardot, Guy Marchand et Jess Han. Demain soir, sur France 2, justement, avant Kill Point, Les Égarés d'André Téchiné, avec Emmanuel Béard et Gaspard Ulliel. Ah, pour l'instant, il n'y a que des actrices blondes. Sur TMC, demain soir,
bien,
à 20h40.
C'est la musique du Grand Blond.
Le retour du Grand Blond, ouais.
Ah, ben, j'ai un Mireille d'Arc aussi, t'as de la chance. Sur TMC, demain soir, à 20h45, Les Baba Cool de François Le Terrier. Hulk.
Non, c'est pas François.
C'est pas François, c'est Louis.
Louis Le Terrier, Louis, bah c'est son fils alors.
Oui,
bah, son fils.
Ouais.
Hein. Ah bah tu vois, hein, là. Hein, les gènes. Hein. Les Baba Cool donc, avec Christian Clavier, Marianne Chazelle, Martin Lamotte, Anémone et Philippe Léotard, le regretté, film de 81. Sur Paris Première demain soir, 100 000 $ au soleil, l'excellent Henri Verneuil en noir et blanc, avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Bernard Blier. Là, il est vraiment très bien ce film. Hein. Super quoi. Super, vraiment. Et donc, sur Cinéma Star, à 20h45, La Grande Sauterelle, elle est là. Le film de Lautner de 67 avec Mireille d'Arc et Hardy Kruger, le beau Hardy Kruger. Rappelle-toi, Un Taxi pour Tobruk. Ah ouais, eh ouais. Lundi, là ça se gâte quand même, sur M6 à 23h30, Mes Meilleurs Copains de Jean-Marie Poiré, avec toujours la même bande, Gérard Lanvin, Christian Clavier.
Non, c'est un des meilleurs films de Clavier.
Eh ben, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Mais ça ressemble un peu aux Baba Cool, quoi. Sauf que les Baba Cool, c'est le truc en flashback, c'est-à-dire c'est des mecs qui ont passé l'âge et tout, tagala.
Ouais.
Mais qui se rappellent, ah, tu te rappelles, et puis, oh putain, ce coup-là et tout. Ah, quand tu m'as piqué cette nana, elle aurait dû venir au pieu avec moi et tout. Alors que Mes Meilleurs Copains, bon, bah, ok, c'est,
ils se réunissent,
maison de campagne et tout, et puis bon, là, puis ça part en couille, quoi.
Voilà.
Mais c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est suivi de l'excellent film de Coluche, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Tout ça, c'est sur M6, lundi, à partir de 23h30. Et lundi, sur Comédie, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Le Max Pécasse de 85, avec Leïla Fréchet.
Attends,
Philippe
Baronnet. Non. Tu as pas le droit de dire le Max Pécasse de 85, il en a fait plusieurs.
Oui, mais c'est le Max Pécasse.
De 85.
De 85. On est bien d'accord. Mardi, dont d'ubiquité pour Michel Blanc, qui est sur TF1 à 20h50 dans Les Bronzés 3, Amis pour la vie de Patrice Lecomte, mais qui est également sur France 3, en même temps, dans Grosse Fatigue, son film, qui est quand même vachement mieux que Les Bronzés 3, hein, faut le dire, avec Carole Bouquet, Philippe Noiret et Josiane Balasco. Il a d'ailleurs obtenu une palme pour ce film.
Grosse Fatigue.
Grosse Fatigue.
Il n'a pas reçu un César ?
Ou un César. Ouais. Enfin, il a reçu un truc. Hein.
C'est des Césars, si je me souviens bien.
César.
Sur les doubles, là. Oui.
Voilà, oui. Ouais, tout à fait. Mais sinon, si vous préférez le
je tourne mon
Max Pécasse de 86, Deux Enfoirés à Saint-Tropez, avec Jean-Michel Noiret, Philippe Carrois. Ah oui, les gars. Et les Caroline morts. Tresca, les seins à l'air. Ah oui, ça le fait. Et encore un petit dernier pour la route. Jeudi, sur Cinéma Premier, OSS 117, Le Cœur Nid d'Espion de Hazanavicius, avec
Hazanavicius.
Avec Jean Dujardin.
Jardin,
donc,
très bon.
Oratica, bref, ouais, bon, d'accord. Ok.
Le seul bon film d'Oratica.
Ah bon?
Oui.
Non, elle a fait Le Convoyeur aussi, qui est très
bien.
Ah
oui, c'est vrai, j'avoue.
Oui, Convoyeur.
Fabuleux.
Va reviser ta filmo, monsieur.
J'adore Le Convoyeur. Ah, oui. Gros fan de ce film.
Alors, je vous ai quand même fait une petite sélection, parce qu'il n'y a pas de film français. Vendredi, j'ai regardé, il n'y en avait pas. Enfin bon, il y en a, mais bon, des téléfilms ou des trucs. Alors donc, vendredi, retour du classique et tout, c'est-à-dire le film de genre.
Ouais.
Avec déjà, celui que si vous avez jamais vu, ça vaut le coup parce que c'est dans la ligne de New York District ou Law and Order, si vous voulez. Mais c'est un téléfilm qui s'appelle Retour de l'inspecteur Logan. Chris Nott, Mr. Big. Ok? D'accord. Parce qu'il se barre de New York District parce que soi-disant il a tapé un mec qu'il fallait pas. Donc il se fait muter ailleurs et là bah il est obligé de revenir parce que bon ce qui se passe c'est que dans la brigade bah il y a des trucs pas catholiques et tout. Et donc il y a Ice-T aussi dedans et tout, c'est filmé par Jean de Segonzac, un habitué donc de ces productions télévisuelles et ça a été tourné en 98. Sinon il y a également, et là c'est sur NT1 à partir de 20h45 vendredi prochain, et celui-là il vaut son pesant de cacahuètes, Trafic explosif de Master P. Ouais, oh, le grand hip-hopper de devant l'éternel,
le
qui
grand,
également.
Grand, grand, oui. Devant l'éternel, tu peux le dire.
Ah ouais, 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 ouais. Bah, celui-là, il est très bien, hein, franchement, quoi. Je te jure, quoi. Là, j'y croyais pas au départ et tout. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, Master P, laisse tomber. Mais vraiment, Gary Buzet, Jeff Fahey dedans, Master P, bien entendu. Et toute une, je crois même, qu'on y voit Roberto Lazzardo, tu vois, c'est vraiment, il y a toutes les bonnes gueules quoi que t'as dans ce genre de film et tout, elles y sont sans problème. Ça dépote du début jusqu'à la fin, c'est un petit peu n'importe quoi, mais ça le fait quand même et tout. Trafic explosif, donc c'est sur NT1 vendredi prochain à partir de 20h45. Et je termine par un film qui devrait être le film de chevet de Xavier.
Oula.
Vu sa ressemblance physique avec l'un des deux personnages principaux.
Alors, attends,
interprété par Ilan Mitchell Smith avec Anthony Michael Hall. Donc quand il était tout jeune, parce que c'est un film de 85 de John Hughes. On voyait un petit peu le genre, quoi. Hein.
Demeure les pré-séquelles. Hein.
Non.
Wargame.
Non. Une créature de rêve.
Non.
Kelly LeBrock. Oh, où l'histoire merde. Des deux gamins là qui avec l'ordinateur ils fabriquent une nana et tout super et tout. Tu trouves pas qu'il y a une ressemblance là, tu vois, le mec aux lunettes et tout là.
Je censure.
Franchement et tout quoi.
Je censure.
Et bon, il faut quand même reconnaître que Anthony Michael Hall a fait une bonne carrière par la suite. Ça l'a pas du tout desservi ce film, vu qu'on l'a retrouvé dans le rôle titre Dead Zone, la série, et c'est également le reporter qui se fait kidnapper par le Joker dans le Darkman.
Dark Knight.
Batman Dark Knight, voilà. Donc bah voilà, hein, quand même, hein, faut dire ce qu'il y a quoi. Hein, ça a marché. En tout cas, une créature de rêve, c'est vendredi prochain également. Et c'est sur Sci-Fi. Et ça vaut le coup quand même, parce que bon, c'est assez rigolo. Surtout quand il y a les Hells qui arrivent, qui saccagent la maison et tout. C'est vraiment très très rigolo. Si, ça le fait quoi.
Oui, JB voulait dire quelque chose.
Oui, t'as pas cité le fils de l'épicier qui passe sur Canal ces jours-ci.
Oui, voilà, mais Canal, c'est que les riches qui lisent Télérama.
Même pas, j'ai pas Canal.
Moi non plus.
Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, c'est Bonjour. Le supplément week-end numéro 170 spécial musique américaine. Et Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, c'était une émission spéciale Télérama aujourd'hui.
Spéciale télébâchage.
On a eu du Google Chrome, de l'ado en BD, du film d'auteur américano-hongkongais, un quiz télé. Des coucheries dans le rock, où il était question des pompons de Toura Satana, des pipes, des cunilingus, des palos, du sperme. On apprend à mouler des bites aussi, et on sait qui a la plus grosse maintenant. On a eu une série. Attends, pour des séries pour ados, séries de braquage et des films Frenchy.
Nom d'une mise en demeure du CSA, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter ça sur nos enregistrements Lego. Il suffit pour cela d'aller sur le site internet de la radio ou celui de l'émission. Vous cherchez Supplément Week-end sur Google, ou Supplément Week-end MP3 ou Supplément Week-end FMR, et vous tombez sur la fiche de cette émission avec les chroniques écrites. Et n'hésitez pas à fouiller dans vos archives, laissez vos commentaires, posez vos questions. Mince, on a oublié de les mettre, les questions. Tout cela sur supplémentweekend.tk. La suite des programmes sur FMR avec votre cahier sportif de suite à 15h, c'est Zarma Farai. Et à 17h, nous cédons la place avec nos amis de Booster FM. Ciao, bye.
Salut.
Salut.